Power, histoire et musique du peuple afro-américain. Épisode 8, l'arrivée du gospel, troisième partie. À la fin du XVIIIe siècle, alors que la guerre d'indépendance des États-Unis se termine, deux pasteurs, Absalom Jones et Richard Allen, fondent la Free African Society et revendiquent ainsi la possibilité pour la communauté afro-américaine de pratiquer la religion à sa manière. L'un restera très proche du culte blanc, mais le second, Richard Allen, permettra le développement d'une identité religieuse noire, notamment à travers le chant sacré. Déjà en 1707, les esclaves reçurent avec enthousiasme les hymnes que le docteur Isaac Watts ramena d'Europe, mais l'interprétation qu'ils en firent restait très occidentale. Aucune once d'africanisme n'était permise au sein de l'Église blanche, qui perçut très mal leur manière d'altérer les rythmes, les mélodies, ou d'utiliser le corps comme instrument de musique. Avec l'apparition des églises et des pasteurs noirs, ce caractère atavique refait surface tout au long du XIXe siècle et continuera à s'exprimer durant le XXe en donnant naissance aux Negro Spirituals, puis au gospel, grâce aux compositeurs Charles Albert Tindley, Lucy Williams Campbell et Thomas Andrew Dorsey. Ce dernier réussit à imposer le gospel, teinté de jazz et de blues, dans les communautés religieuses noires, et les formations de chanteurs, solistes, chorales, groupes mixtes et de quartets se déploient dans tout le pays pour chanter la bonne nouvelle. Where he was buried had never been told. Let my people go. I'm singing, I'll go down. Moses, way down in the knees of man,
His commandment in Moses' mind.
Why don't you let my people go?
He stamped his laws in Moses' heart.
Why don't you let my people go?
Said Moses, don't you leave my land behind.
Why don't you let my people go?
Singing out,
go down, brother Moses, way down in the Egypt land.
En 1877, Thomas Edison met au point un système d'enregistrement sur cylindre. Et en 1887, Emile Berliner lui emboîte le pas en créant le gramophone à disque. Mais ce n'est qu'à partir de 1901 que la Victor Talking Machine Company enregistre des chants populaires d'artistes noirs. En 1902, la compagnie Victor met dans le commerce des enregistrements du Dinwiddie Colored Quartet, qui chante alors des Genuine Jubilee Songs et des Camp Meeting Songs, précurseurs des Gospel Songs de Charles Tindley. Mais ce n'est qu'à partir de 1920 que les enregistrements de chanteurs noirs sont lancés, sous l'étiquette Race Records, en vue de conquérir la clientèle afro-américaine. Le premier enregistrement de Race Records est signé Mammy Smith, avec son Crazy Blues, et à partir de 1926, les Males Quartet entrent en studio. Ces groupes vocaux, composés de 4 ou 5 membres, chantent alors principalement des Negro Spirituals et des chansons populaires, puis se tournent vers l'interprétation de gospel songs durant les années 1920 et 1930.
Giving fire. the blind.
À cette époque, deux états regroupent la plupart des Mills Quartet qui enregistrent quelques faces. Il s'agit de l'Alabama et de l'état de Virginie. Tout commence avec l'arrivée de R.C. Foster en Alabama. Il est alors chanteur de Negro Spirituals, façonné au style occidental de la Tuskegee Institute, l'une des premières universités pour Afro-Américains. Il forme et entraîne les Foster Singers, qui ne laisseront aucun enregistrement, mais ils deviennent à leur tour professeurs de chant et se mettent à former des groupes qui deviendront prestigieux, comme les Birmingham Jubilee Singers, les Famous Blue Jay Singers ou encore les Heavenly Gospel Singers. En Virginie, c'est sous l'impulsion du Norfolk Jubilee Quartet que le nombre de groupes augmente considérablement dès 1923. Cette région voit donc naître les Silver Leaf Quartet of Norfolk, l'Excelsior Quartet, les Dunham Jubilee Singers et le Golden Gate Quartet qui est toujours en activité de nos jours. Ces formations abordaient aussi la musique profane en enregistrant sous un autre nom comme le Norfolk Jubilee Quartet qui devenait alors le Norfolk Jazz Quartet, le temps d'un blues. Les membres de ces groupes ont fondé les quartets qui résisteront dans le temps ainsi qu'à la Seconde Guerre mondiale comme les Selah Jubilee Singers, les Dixie Hummingbirds et les Five Soul Stirrers of Houston, qui se formèrent à la fin des années 30. Mais le crash de 29 ouvre une nouvelle période de grande pauvreté et de misère pour le peuple afro-américain. Et les compagnies de disques se trouvent touchées par ricochet, l'achat de Race Records devenant inabordable pour l'immense majorité des Noirs. Cette situation touche le fond entre 1931 et 1934. Plusieurs firmes disparaissent ou se font absorber par de plus grosses. Et même si la situation est moins grave pour la musique religieuse noire, peu d'artistes arrivent à résister. Quelques guitaristes évangélistes connaissent un grand succès dès 1934, ainsi que des Mills Quartet, dominés par les Mitchells Christian Singers, les Heavenly Gospel Singers et le Norfolk Jubilee Quartet, toujours présents sur scène. Il faudra attendre la fin de la guerre pour retrouver une situation florissante, car entre 1942 et 1945, le Petrillo Ban interdit de presser des disques pour réserver l'utilisation du plastique aux besoins de la guerre. The wheat world there with your offering. No, God heard, remember thy cry. Down to the no sorrows in the heaven forever. No, God wiped all the tears from the eye. The gambler was there with the drunkard. Yeah. And the man who sold on that train. Down to the people who issued them the license. No, together. Après 1945, le secteur du disque reprend pleinement son activité, grâce à la facilité et au faible coût d'enregistrement, à une demande qui explose et avec l'apparition d'une multitude de petites compagnies indépendantes, les Indies, qui enregistrent abondamment. Mais à cette époque, le disque n'est pas encore la source principale de revenus des artistes. C'est au mieux une carte de visite et ils vivent des concerts, galas, représentations et prestations diverses qui furent presque aussi nombreux durant la Grande Dépression. Les musiciens jazz et blues sont plus gâtés. Les stations de radio, les clubs, les music halls et les salles de danse se les arrachent, tandis que les musiciens religieux subviennent à leurs besoins grâce aux églises avant tout. Mais cette période est aussi celle d'un renouveau musical au sein des églises baptistes, sanctifiées et pentecôtistes. Thomas Andrew Dorsey, épaulé par Sally Martin, transforme les gospel songs et réussit à diffuser ses compositions à travers le pays. Le succès est tel que les Negro Spirituals et les Jubilee Songs perdent leur attrait populaire. Les meilleurs artistes de ces styles se tourneront alors vers le classique et l'opéra, comme Marian Anderson, ou Paul Robeson, qui choisit le théâtre et la comédie musicale. Les guitaristes évangélistes s'éteignent aussi, à l'exception de quelques-uns dont le révérend Gary Davis ou Sister Terrell, qui bénéficieront du blues revival durant les années 60. Mais les solistes, les chorales et les Mills Quartet réussirent à s'adapter à ce nouveau style religieux.
Known by God alone.
Oh, God is not too busy to know the sins of man. You may hear from heaven, you may feel his hand. If you are in trouble and afraid of all mankind, hey,
pick up the atomic telephone and get him on the line.
Hey.
Le gospel triomphe partout dans les communautés noires, des campagnes du sud aux ghettos urbains. Malgré que certaines églises freinent le mouvement, les églises baptistes et sanctifiées, qui regroupent alors le plus de fidèles afro-américains et les meilleurs artistes du genre, assurent le succès de masse. À tel point que durant les années 40, le gospel sort de l'église et s'ouvre aux non-croyants. Sister Rosetta Tharpe amorce le mouvement lorsqu'elle se produit dans le Cotton Club et au Café Society Downtown de New York en 1937, accompagnée de Big Bands. Et de nouveau en 1943, à l'Apollo Theater de Harlem, au lieu du jazz et de la variété populaire noire. Les Mills Quartet, toujours à la mode depuis le Dinwiddie Colored Quartet et malgré les années 30, s'adaptent parfaitement au goût du jour. Ils délaissent les hymnes et les Negro Spirituals pour se consacrer principalement à l'interprétation des gospel songs de Dorsey et abandonnent progressivement les chants a cappella en introduisant une section instrumentale dans leurs morceaux. Mais la plupart des groupes d'avant-guerre disparurent et firent place aux nouveaux qui régneront sur le monde du gospel de 1945 à 1955. Les Dixie Hummingbirds et les Spirit of Memphis Quartet se retrouvent alors concurrencés par les Sensational Nightingales et les Pilgrim Travelers, mais aussi par des quartets féminins qui apparaissent au sud dans les années 50, dont les Gospel Harmonettes et les Thousand Harps Spiritual Singers. Jusque-là dominés par les hommes, ce genre s'ouvre aux voix féminines grâce aux églises sanctifiées qui osèrent donner à des femmes le rôle de leader, de chef d'orchestre et même de prêcheur. Le phénomène de masse se développe durant les années 50 avec l'aide des médias. En 1950, Joe Bostick, DJ new-yorkais, inaugure un programme de musique gospel en direct, chaque dimanche matin, sur la station WLIB. Le succès, considérable, est immédiat, et Joe Bostick organise aussitôt le premier Negro Gospel and Religious Music Festival au Carnegie Hall, avec Mahalia Jackson en vedette. Le festival se joue à guichets fermés, tout comme les années suivantes, et le Carnegie Hall devient rapidement trop petit pour l'événement. Le Madison Square Garden est alors choisi pour le remplacer et le festival se renomme en First Annual Gospel, Spiritual and Folk Music Festival à partir de 1959. Et c'est aussi à travers la télé que le gospel envahit les foyers afro-américains. Le célèbre Ed Sullivan Show accueille Mahalia Jackson en 1956 et beaucoup découvrent une musique tout autant émouvante que swingante. Cette dernière sera même invitée par John Kennedy en 1961 pour fêter son accession à la Maison Blanche.
Our sin and grief to bear. But oh, privily to carry. Is there
Dès lors, même les détracteurs reconnurent la musique religieuse afro-américaine, achetèrent des disques, des places de concert et prirent l'habitude de regarder des programmes télé ou d'écouter les très nombreuses stations radio qui se spécialisaient dans la musique gospel. Les congrégations épiscopales, presbytériennes et méthodistes se mettèrent elles aussi à accueillir ces groupes musicaux dans leurs églises.
With his rock and sling,
said I,
I don't want to meet him,
said I,
he's a dangerous man,
said I'll serve him and rest a while, said I,
talk about little David.
Said I,
he's a mighty man.
Said I,
well, he killed Goliath.
Said I,
took his head to King Low.
Said I'll serve him and rest a while. Said I,
said I'll serve
him. Said I, I just got to heaven and I can't sit down. I can't sit down. Oh, I can't sit down. I can't sit down. I just got to heaven and I can't sit down.
Since you can watch the sun, see how steady she runs. Don't let it catch you if you were undone. Joshua, Joshua, the son of a nun. Be God Almighty, won't you stop the sun? God spoke to Joshua to do thy will. You said if you fight the battle, the sun stands still. He gave me a letter and he told me to go. He gave me a heart and he told me to go. And if I don't, my lungs.
L'ouverture du gospel sur le grand public et sur le monde profane qui appréciait la musique en laissant de côté les textes moralisateurs entraîne rapidement la coexistence de deux catégories de musique gospel. L'une sacrée pour les croyants qui se jouait principalement dans les églises et l'autre séculaire qui attire son public dans les salles de concert, les théâtres ou les nightclubs. Après Rosetta Tharpe, la soliste Bessie Griffin introduit le gospel dans un cabaret. Et des quartettes tels que les Dixie Hummingbirds ou les Staple Singers suivent cette voie. Car la tentation de toucher un large public, et de gros cachets, amène même les meilleurs à y succomber, comme Clara Ward, qui signera en 1961 un contrat avec un club de Las Vegas pour plus de 2 ans. D'autres optèrent pour le rhythm and blues et la soul, comme Dinah Washington, Little Richard, Aretha Franklin et Laverne Baker. L'émancipation de ces chanteurs en dehors de la sphère religieuse est irréversible, et rares sont ceux qui furent autorisés par l'Église à revenir en son sein. C'est ce qui arriva à Sam Cooke.
Oh, Jesus. Jesus
gave me water.
Jesus gave me water.
Jesus gave me water.
Gave me water.
I wanna let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not
in the well.
Well, there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell. That a woman dropped a pitcher, she drank and was made richer from the water he gave her. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I wanna let his praises swell. Jesus gave her water. He gave that woman water. Gave a living, loving, lasting water. And it was not in the well. On that woman he had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah, and did his wonders tell. She left my Savior singing. She came back to him bringing the town seat of the water, Lord. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I want to let his praises swell. Jesus gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water. And it was not in the well. Lord, that woman left for shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did her wonders tell. Every time she doubted him, she started to think about him, the man that gave her that water, Lord. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I want to let his praises swell. Tell you he gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water, 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 loving water. And it was not in the well.
Ce fils d'un pasteur baptiste, né en 1931 au Mississippi, est destiné au chant dès son enfance. Alors que la famille déménage à Chicago, il se forme à l'église et fait rapidement partie d'un groupe avec ses frères et sœurs, avant de rejoindre un groupe local de gospel, les Highway Cusses. Son talent est tel qu'on lui propose à 19 ans de rejoindre les célèbres Soul Stirrers. Ce quartet, formé au Texas en 1934 par Rebette Harris, Jesse Farley, Roy Crane, se retrouve enregistré en 1936 par Alan Lomax, ethnomusicologue pour la Library of Congress. Ils connaissent la gloire durant les années 40 et 50 grâce à la qualité tout à fait exceptionnelle de ces chanteurs et à leur innovation vocale. Déjà remarquables, leurs enregistrements se perfectionnent entre 1946 et 1948, puis à partir de 1950. Et en 1951, Sam Cooke remplace Rebette Harris comme leader et grave de magnifiques faces avec son groupe. Il devient très vite une star chez les Afro-Américains, mais aspire aussi à dépasser le milieu religieux. Pour éviter les foudres de l'église, il enregistre son premier titre profane sous le nom de Dale Cook en 1956. Il s'agit de Lovable, inspiré d'un gospel, Wonderful.
Lovable, my girl, she's lovable. She's lovable, my girl. She's so lovable. Candy sweet,
and honey too. There's not another quite as sweet as you. I know I'll always love you. You're so lovable. Yes, she is. I know she's lovable. Oh, yes, she is. I know she's lovable. My girl is lovable. Yes, she is. Oh, love and fascination is her middle name. To my heart a sensational thrill she brings. Whoa, whoa. I know she's lovable. Whoa, I know she's a. Yes, she is. I know she's lovable. Oh, yes, she is. She's lovable, and I know she's lovable. Oh, yes, she is. Oh, she's just an angel, a sweet little angel to me. When I'm without her, I know I'm in misery. Whoa, I love my girl. She's so.
L'imposture est vite démasquée par la communauté religieuse et fait scandale. A tel point qu'en 1957, Sam Cooke quitte les Soul Stirrers et enregistre la même année son premier grand succès, You Send Me, qui le propulsera au rang des pionniers de la soul.
Darling, you send me. I know you send me. Honest you do, whoa, you thrill me. I know you thrill me, darling. You thrill me. Honest you do. At first I thought it was infatuation.
L'arrivée du gospel de Thomas Andrew Dorsey a donc permis l'abandon des manières occidentales restrictives dans l'Église, déjà amorcée à la fin du XVIIIe siècle. Les communautés religieuses noires se sont réappropriées la pratique du culte sacré, autant dans la manière de prêcher que de chanter, et l'Église s'est imposée comme l'école de musique des Noirs américains. Tous les grands artistes afro-américains, de Ray Charles à James Brown, en passant par Otis Redding et Aretha Franklin, entre autres, firent leurs premières armes au sein de l'Église. Et les groupes de doo-wop, tels que les Ink Spots, les Platters ou les Hailey Brothers, empruntèrent tout leur style au Males Quartet.
But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know you send me. I know you send me.